qui est vrai, qui est vrai. Mais je mettrai quand même quelques guillemets. Mais auparavant, prions. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette journée. Et aussi parce que tu es toujours le même. Et ce que je te demande, Seigneur, c'est que, effectivement, dans cette période où nous vivons, nous soyons justes et nous soyons aussi promptes à faire ce que tu demandes. Que ce matin, tu nous visites, Seigneur, que tu nous remettes en question, mais aussi que tu nous donnes l'assurance de ta présence, de ton amour et de ta paix et de ta guérison. Au nom de Jésus, amen. Voilà, la première chose, donc, c'est, ça aurait pu faire un grand scoop, un bon scoop à la radio, à la télé, à la dans les journaux. C'est un peu l'inverse de ce qu'on avait un peu fait il y a quelques années. Vous savez que on s'était promené il y a quelques années dans la rue avec une tenue de Père Noël et on avait mis dans le dos le Père Noël a chassé Jésus. Voilà. Mais le scoop de cette année, c'est différent. C'est le Père Noël s'est converti. Le Père Noël s'est converti. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein, c'est une bonne nouvelle. Ne riez pas parce que c'est peut-être vrai. Hein. Ça pourrait être vrai. Le Père Noël s'est converti. Alors, comment il s'est converti? Eh bien, il était dans sa robe rouge, avec son bonnet sur la tête, et puis sa barbe blanche, et son traîneau derrière lui. Et voilà que le lieu où il devait se rendre, il rencontre un évangéliste, un témoin, comme vous le faites quand vous évangélisez dans la rue. Cet homme-là l'accroche, lui parle du Seigneur, lui parle de l'amour de Dieu. Et voilà que le Père Noël se convertit. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il abandonne son bonnet blanc et rouge, sa robe rouge, sa barbe blanche, et puis aussi sa hotte avec tous les cadeaux. Enfin, vous savez que les cadeaux du Père Noël, ce sont des paquets vides, généralement. Il ne peut pas donner grand-chose. Ouais. Mais c'est bien qu'on se rende au moins compte de cela. C'est que le Père Noël, comme disait la petite fille de Claire, « Oh, ma petite sœur m'a tellement embêtée, enquiquinée, ben, tu sais, papa, ce que j'ai fait ?» Eh bien, je lui ai dit que le Père Noël n'existait pas. Pour la punir. Hein. Je lui ai dit que le Père Noël n'existait pas. Hein. Mais dans cette histoire du Père Noël qui se convertit, même si on peut l'imaginer, n'oublions pas quelque chose. C'est qu'en fait, une conversion, c'est un peu ça. Nous sommes tous, dans une certaine mesure, comme des Pères Noël, avec un déguisement, avec notre bonnet rouge, vert, n'importe comment, avec notre manteau, avec notre sac à dos, et le sac à dos dans lequel on met quantité de mensonges, de dissimulation, et c'est ce que fait la robe du Père Noël. On se cache, on se dissimule derrière la barbe, etc. On est quelqu'un d'autre. Et c'est une bonne image de ce qu'est le péché, et ce que le péché peut faire. Et le pécheur, c'est un Père Noël. Le pécheur, c'est un Père Noël qui circule et qui va, mais toute l'année. C'est pas seulement quelques jours avant Noël. Non, c'est toute l'année. Et bien que ces Pères Noël ou ces Pères Noël ou ces Mères Noël ou tous ces filles Noël, ces fils Noël, tout ce que vous voulez, ben, se promènent et c'est à nous, tout simplement, eh bien, en les évangélisant, à leur faire renoncer à ce qu'il y a dans leur déguisement et aussi à leur faire abandonner la hôte dans laquelle ils ont mis des cadeaux trompeurs, illusoires, mensongers. Et il y en a de toutes sortes. Vous pouvez prendre tous les cadeaux que vous voulez, la colère, la haine, la violence, la méchanceté. Tout ça, c'est dans la hôte, voyez. Et c'est pour ça que cette année, il faudra que nous prenions vraiment au sérieux l'évangélisation, d'une manière ou d'une autre. Et je vous rappellerai simplement en disant, n'oubliez pas la conversion du Père Noël. Et chaque fois que je dirai, n'oublions pas la conversion du Père Noël, vous saurez ce que ça veut dire. Et ceux qui viendront, qu'est-ce qu'il a voulu dire, la conversion du Père Noël? Qu'est-ce qu'il chante là? Eh bien, vous leur expliquerez. C'est que tous ceux qui ne croient pas en Jésus, eh bien, ce sont comme des Pères Noël. Ils vivent derrière un mensonge. Le mensonge qui est le péché. Ce sont des pécheurs, mais qui sont cachés derrière toutes sortes de mensonges. Et c'est pour ça que si cette histoire, nous devons simplement la retenir pour nous. Voyez. Souviens-toi d'amener les Pères Noël à la foi, à Jésus-Christ. Et ça, c'est un objectif pour 2012, puisque nous sommes dans cette année 2012. Et c'est notre objectif. Et je dis cette parole dans Matthieu, chapitre 1er, verset 20. Elle enfantera, verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est là l'objectif, c'est annoncer Jésus. Pas seulement d'annoncer Jésus parce qu'il guérit, mais annoncer Jésus parce qu'il change la vie. La preuve, vous avez entendu tout à l'heure, il y avait une personne qui remerciait parce qu'on avait prié afin d'être guéri. Mais la personne qui avait fait cette prière, qui avait mentionné ce petit papier, disait « Mais il n'est pas encore sauvé. » Cette personne n'est pas encore sauvée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement dire « Alléluia !» Il faut simplement dire un demi-alléluia. Un demi-alléluia. Parce qu'elle n'est que guérie. Mais elle n'est pas encore sauvée. Pourquoi un demi-alléluia? Parce qu'en fait, bien, on se réjouit parce que Dieu a exaucé notre prière. Alléluia. Mais que servirait-il à cette personne étant guérie d'aller en enfer? Voilà, c'est ça. Et il faut qu'on soit conscient de cela. C'est pour ça que notre prière, elle doit aller jusqu'à la conversion, jusqu'au salut, jusqu'au salut de la personne et qu'elle ait l'assurance d'aller au ciel. Voilà, c'est ça notre prière, voyez. Alors, souvent nous nous contentons des demi-prières, des demi-exaucements. L'exaucement là n'est et ne sera vraiment un exaucement total que lorsque la personne aura reçu Jésus-Christ dans son cœur. Et c'est vrai que là, souvent nous sommes là devant ces cas-là en disant « Le Seigneur va te guérir, le Seigneur va te guérir ». Alors la personne, elle croit. On ne peut pas dire qu'elle ne croit pas. Elle croit à la guérison. Elle croit que les frères, les sœurs, les gens qu'elle ne connaît même pas vont prier pour elle et qu'elle va aller mieux. Et puis quand elle va mieux, elle continue de nouveau sa vie d'avant. Il faut que cette année, nous ayons ce souci de dire « J'irai jusqu'au bout dans ma prière, jusqu'au salut, jusqu'au salut. Tant qu'il n'y a pas le salut, je ne cesserai d'intercéder. » Et ça, c'est un point important. Alors, je vais vous donner cet exemple du Père Noël parce qu'il est marquant et il fait réfléchir. Mais nous pouvons aussi être nous-mêmes des Pères Noël. Nous pouvons aussi être des Pères Noël dans la mesure où nous pouvons nous cacher. Derrière un manteau rouge, une barbe blanche, etc. Et ça aussi, ça doit aussi changer. C'est de dire, Seigneur, non, moi je ne veux pas vivre caché comme ça, mais je veux que tu me transformes, je veux que tu me changes, je veux que tu me changes complètement. Vous voyez, la conversion d'un Père Noël, elle est radicale. Et c'est pour ça que je prends bien cette image, parce qu'il abandonne et son manteau, sa barbe, son bonnet, et puis sa hôte, et tout ce qu'il y a dedans. Vous voyez, c'est ça, la conversion. Vous voyez. Et c'est un changement de vie, c'est une transformation de cœur. Et c'est pour ça que cette année, vous allez rencontrer beaucoup de gens qui sont comme le Père Noël. Mais c'est à vous de les amener à Jésus. Mais vous aussi, Dieu veut aussi vous changer. Et c'est à vous de lui dire, je crois que tu peux me changer. Deuxième point, c'est... Dans le livre des Proverbes, j'ai pris un verset, mais c'est plutôt un verset pour illustrer. Ça dépend aussi de nos versions, parce que dans ce livre des Proverbes, on parle de l'avenir. Et on est dans ce temps, avec les bons vœux, de se souhaiter un bon avenir. Un bon avenir. Mais est-ce que nous avons le pouvoir de nous souhaiter un bon avenir? Réfléchissons un peu, Jésus, à qui on posait la question, mais qu'est-ce que tu penses de ce beau temple maintenant, qu'Hérode est en train de construire et qui va bientôt être achevé? Et Jésus regarde et il dit, il n'en restera pas pierre sur pierre. Et 40 ans après, c'est en 70, le temple a été détruit et rasé. Et quel est l'avenir que Jésus donnait? C'était la vérité. C'était la vérité. Vous savez, souhaiter des bons vœux à quelqu'un, ben, c'est risqué. Hein, vous vous engagez, hein. Vous cautionnez. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que vous dites. Je te souhaite le meilleur, oui, mais peut-être que le meilleur ne sera pas le meilleur pour la personne. Mais peut-être que le pire sera l'occasion pour qu'elle se tourne vers Dieu. C'est pour ça que dans notre Père, nous disons que ta volonté soit faite. Ne nous induit pas ou ne nous soumet pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est-à-dire que il y a aussi que Dieu puisse permettre à nos sentiments de se révéler, à notre volonté de se révéler, mais aussi au diable d'agir. Mais parfois, Dieu nous met dans cette situation, dans des situations, pour voir ce qu'il y avait au fond de notre cœur. Vous voyez ? Et c'est pour ça que parfois, les situations pires peuvent révéler ce qu'il y a de meilleur en nous. Mais donner de la guimauve à tout le monde et de l'eau de rose ne change pas forcément les cœurs. Mais il faut parfois qu'on bouffe de la vache enragée et là, on découvre que ce serait quand même mieux d'avoir une autre nourriture. Alors, ce matin, j'ai appris à la radio, peut-être à la télé, vous avez peut-être entendu une bonne nouvelle. 65% des Français sont pessimistes. 65% des Français sont pessimistes. Et parmi les 65%, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et que beaucoup votent à gauche. Ah oui, mais écoutez, moi j'invente rien, c'est ce que j'ai entendu. Alors, moi je me suis dit, tiens. Pour les femmes, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de changer de sexe. Et quant aux gens de gauche, eh bien, qui sont pessimistes, ben, ils changent de camp. Hein. C'est aussi simple que ça. Voyez. Mais derrière cette... Vous savez, c'est le début de l'année. Alors, il paraît qu'on va avoir 200 sondages jusqu'aux élections. Alors, n'écoutez pas trop les premiers. Hein. Il n'y a que les derniers qui comptent. Hein. Encore et encore. Mais ça m'a surpris. 65% de Français qui sont pessimistes. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'ils sont pessimistes? Mais parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Il y a quelque chose qui m'est revenu à l'esprit, c'est Simone Weil, qui a passé quelques années en camp de concentration, parce qu'elle était juive. Elle dit, pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Et vous savez ce qu'elle dit, je ne le dis pas mot à mot, mais elle dit, il n'y a pas d'avenir. L'avenir n'existe pas. Franchement, j'ai été étonné. L'avenir n'existe pas. L'avenir, alors elle ajoute, et elle est vigoureuse là dans ce qu'elle dit, l'avenir n'est fait que de ceux dont on le remplit. J'ai dit, ben ça c'est de la sagesse. L'avenir n'est fait que de ce que vous le remplissez, ce dont vous le remplissez. Si vous êtes pessimiste, ben votre avenir sera pessimiste. Si vous êtes optimiste, votre avenir sera optimiste. Si vous croyez, ben votre avenir sera aussi plein de cette foi, de cette espérance. Si vous ne croyez pas, il sera plein d'incertitudes, de craintes, de peurs, d'angoisses, etc. Et moi, ça m'a frappé. Vous voyez, j'ai dit, mais c'est ça. Et quand la Bible parle d'avenir, et c'est dans le livre des Proverbes que je lis, chapitre 23, verset 15, « Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi aussi se réjouira. » Mes entrailles tressailleront de joie quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais que tout le jour y craigne l'Éternel. Car il y a un avenir et ton espérance ne sera pas retranchée. Toi, mon fils, écoute et deviens sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi ceux qui s'enivrent de vin, parmi ceux qui font des excès de viande, car l'ivrogne et celui qui fait des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. Vous avez noté, il y a un avenir, mais il y a un avenir seulement pour celui qui est sage. Et la sagesse, c'est de croire. C'est pour celui qui croit. Chapitre 24, verset 14, ça continue, la page d'après. Verset 14, je vais lire un peu plus. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il y a un avenir. Et ton espérance ne sera pas retranchée. Je vous invite à lire ces deux chapitres, mais aussi les autres, parce qu'il est toujours question de la sagesse dans le livre des Proverbes. Et la sagesse crie, elle crie le long des rues. La sagesse, c'est la bonne nouvelle de Jésus. La sagesse, c'est même le Seigneur lui-même. Et celui qui écoute le Seigneur, il a un avenir. Et son avenir est rempli de Dieu. Mais celui qui ne croit pas, qu'est-ce qu'il met dans son avenir? Ses craintes, ses peurs, ses angoisses, son péché, sa honte, sa peur. Il est ainsi. Mais celui qui met dans son avenir Dieu, a l'espérance de tout ce que Dieu peut faire pour lui. Et c'est pour ça que ça m'a frappé. Et je vous le livre là comme ça. C'est que l'avenir, c'est aussi Victor Hugo qui a fait un beau poème à propos de Napoléon. Et j'ai toujours bien retenu cette parole, « Sire, l'avenir est à Dieu. » Autrement dit, tout Napoléon que tu sois, aussi puissant que tu crois être, ben c'est Dieu qui décide de tout. « Sire, l'avenir est à Dieu. » Et souvent, c'est aussi un autre aspect de l'avenir qui se présente à nous. C'est notre orgueil. Comme ce fut le cas de Napoléon. Je veux être le maître du monde. Je veux être plus grand qu'Alexandre et que César. Je veux être le plus grand parmi les empereurs, de tous les empereurs. Ça a toujours été le rêve de tous ceux qui étaient orgueilleux, depuis Nebuchadnezzar et puis d'autres, vous voyez. Et parfois aussi, il y a cet aspect-là dans notre vie. C'est cet orgueil. J'arriverai, je ferai encore ceci, et je ferai encore cela. Nous connaissons cette parabole de Jésus qui parlait de cet homme qui dit « Je fais de belles récoltes. Maintenant, je vais agrandir mes greniers et je vais mettre tout dedans. Et mon âme... repose-toi. » Et la parole, c'est « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Vous voyez, c'est, l'avenir, c'est, et là nous sommes au début de l'année 2012, qu'est-ce que nous mettrons en 2012, 2013, 2014, 2015, etc. jusqu'au retour du Seigneur. Qu'est-ce que tu mets? Alors tu peux mettre toutes sortes de projets personnels. Tu peux mettre toutes sortes de graines de ton orgueil. Mais l'avenir, c'est ce que toi, tu mets. Et ça, j'ai apprécié ce que Simone Weil disait. Parce qu'en fait, elle est juive, elle a fait des expériences terribles, terrifiantes. Elle aurait pu laisser sa vie. Dans ces camps, elle a pu imaginer que c'était fini. Et l'avenir est à Dieu. Et c'est pour ça qu'en 2012, nos projets, mais nos projets, ce sont ceux de Dieu. Et si ce sont ceux de Dieu, ils se réaliseront. Mais si dans ces projets de Dieu, nous y mettons notre orgueil, c'est notre orgueil qui fera échouer même les plans de Dieu. On peut aussi dire, en 2012, on veut évangéliser, on veut faire ceci. Attention. C'est bien, Dieu nous donne un ordre, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais il n'a pas dit, fais-le, accomplis-le à la force de ton poignet, à la force de ton bras, à la force de ton orgueil. Mais fais-le avec moi, fais-le par ma puissance. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que dans toutes ces choses-là, c'est le temps des décisions, des projets, etc. Et alors, on peut être tenté de dire, je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ça, c'est une mauvaise façon de faire. L'avenir appartient à Dieu. Et cet avenir-là, quand il est celui de Dieu, il ne peut être rempli que de Dieu, de sa présence, de son amour, de sa paix, de sa joie, et aussi de sa souffrance. L'apôtre Paul nous en a donné plusieurs exemples. Hein. Il servait le Seigneur, mais au prix de combien de souffrances? Nous, on voudrait servir le Seigneur sans souffrir. Et ça, je vous préviens, ce n'est pas possible. Si vous voulez servir le Seigneur, ben vous souffrirez. Ouais. Hein, c'est, il y en a qui croient, et si vous évangélisez quelqu'un, ne lui dites pas, oh, maintenant que tu es chrétien, tout va aller bien. Hein? Non, Ce qui va aller bien, c'est ta relation avec Dieu. Mais peut-être pour le reste, tu auras beaucoup de problèmes. Et quand on voit ce qui s'est passé pour Paul, ben il a vécu cela. Alors c'est pour ça que 2012, c'est la mort du Père Noël. Mais si le Père Noël est mort, comme dit l'apôtre Paul, si Saul de Tarse est mort, l'apôtre Paul est vivant. Il vit. Et c'est ça qui se passe en 2012. C'est que si notre vieille nature meurt, parce qu'elle est crucifiée, nous sommes une nouvelle créature parce qu'il vit en nous, parce que Jésus vit en nous. Alors ne pas oublier de parler de la croix, parce que c'est là que tout se passe. Et tout, il faut toujours tout ramener à la croix. Que ce soit pour l'évangile, on ne peut pas évangéliser les gens sans parler de la croix. Et on ne peut pas commencer à vivre et à marcher avec Jésus sans que l'œuvre de la croix se continue et se continue en nous. La deuxième chose, de quoi sera fait l'avenir en 2012 ? Vous pouvez mettre dans l'avenir tous vos projets professionnels, tout ce que vous voulez, familiaux. Il y en a d'autres qui ont des projets maritaux, ils veulent se marier. Très bien. Si vous y mettez vous-même, et je répète l'image, l'avenir, c'est ce que vous y mettez. Et moi, je préfère pas mettre ce que je veux, mais je préfère y mettre ce que Dieu veut. Et c'est toute la différence. Alors, il y en a qui vont dire, moi je veux être riche. Il n'est pas interdit d'être riche dans la Bible. Il y a des exemples. Mais que ce soit pour Dieu, pour sa gloire. Il y en a d'autres qui veulent avoir et qui vont avoir des projets professionnels. Très bien. Mais il faut que ce soit avec Dieu. Il y en a d'autres qui ont des projets à l'intérieur de leur famille. Très bien. Mais que ce soit avec Dieu. Il y en a qui souffrent parce qu'ils sont célibataires et ils veulent se marier. Très bien. Et tu mets dans l'avenir et tu projettes dans l'avenir, je vais me marier. Avec qui ? Avec qui ? Il faut que ce soit avec l'aval de Dieu. Si ce n'est pas, ce sera la catastrophe. Vous voyez, il faut que dans l'avenir, nous n'oublions pas. Je peux mettre dans l'avenir tout ce que j'ai dans mon cœur, mais c'est du dedans du cœur que viennent les mauvaises pensées et les péchés. Mais je peux mettre aussi dans l'avenir, et si je mets ce qu'il y a dans mon cœur, ce sera la catastrophe. Mais si je mets dans mon cœur, eh bien, ce que Dieu veut, alors ce sera son avenir. Et cet avenir nous conduira jusque dans la vie éternelle. C'est toute la différence. C'est pour ça dire des bons vœux à quelqu'un et dire, attention, je n'ai aucune maîtrise sur ton avenir. Je n'ai aucun pouvoir sur ton avenir. Mais je peux te dire une chose, c'est si tu veux mettre Dieu dans tes projets, dans ce que tu mets dans ton avenir, tu ne seras pas déçu. Et même si tu dois pleurer, et même si tu dois souffrir, mais si c'est pour la gloire de Dieu, tu ne t'en repentiras jamais. Et c'est ça qui est important. Alors, voilà, nous sommes dans ce point, en ce début d'année, coincés entre à la fois Noël, le Père Noël, et puis l'avenir, avec des craintes. Le chrétien ne s'inquiète pas. Et il ne s'inquiète même pas de l'avenir. Pourquoi ? Et j'espère que dans les 65%, il y avait beaucoup de chrétiens. Non. Heureusement, je voulais vérifier si vous écoutez, hein ? Mais dans les 35%, j'espère qu'il y avait des chrétiens. Plus à Dieu que dans les 35%, eh bien, il soit demain 40, 50, 60, 70%. Parce qu'eux savent que l'avenir appartient à Dieu et que Jésus nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Moi, je ne trouve pas normal qu'on s'inquiète. Quand on est chrétien, eh bien, ce n'est pas qu'on soit je m'en foutiste, mais Dieu tient tout dans sa main. Nous le chantons, vivons-le. Dieu tient tout dans sa main. Je ne m'inquiète pas. Il y en a qui disent, c'est le printemps, mais même quand ce serait l'été, quand ce serait l'été comme un four qui est ultra chaud, mais qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que vous savez de ce que Dieu fait en ce moment dans les pays arabes? S'il n'est pas en train, et c'est ma pensée, en train de préparer un réveil comme on n'en a jamais vu. C'est tout. Croyons-le. Nous ne serons pas inquiets. Et puis, il y a aussi tous ces musulmans qui sont en France. Eh bien, c'est à nous de les évangéliser. Et puis, à nous de dire la vérité, d'avoir pas peur, de ne pas avoir peur. Claire parlait avec sa petite fille. Ça m'a frappé, ça aussi. Alors, la petite fille, il faut faire attention à ce que l'on dit, parce que ça peut être repris, puis demain, je peux me retrouver au tribunal. Alors sa petite fille, je ne sais pas comment c'est venu, parler des homosexuels, et puis bon, il y a eu des réflexions un peu négatives à l'égard des homosexuels. Sa petite fille qui a 11 ans, elle dit non, mais il ne faut pas être comme ça, il faut accepter les différences, il faut accepter, il faut respecter leur comportement, leur attitude, etc. Et Claire a été vraiment dirigée par le Saint-Esprit et lui a dit, écoute, c'est bien ce que tu dis, mais si ton père avait été homosexuel, est-ce que tu serais là? Est-ce que tu serais là? Ah ben oui, ça j'y ai pas pensé. Vous voyez, c'est ça. Et je crois que cette année, il faut aussi que nous soyons aussi réglo, droit. N'ayons pas peur, parce que le Saint-Esprit nous donnera les réponses dans les moments qu'il faut. Si nous avons confiance dans le Saint-Esprit, eh bien, il nous donnera les réponses. Et quand vous évangéliserez, il vous donnera aussi les mots qu'il faut dire. Et il vous donnera aussi les mots pour prier, etc. Et c'est tout ça, l'avenir. 2012. L'avenir, notre avenir est radieux, il est merveilleux avec Dieu. Même si peut-être nous allons souffrir et peut-être si nous allons pleurer. Mais nous aurons aussi des moments où nous serons joyeux, même au milieu des larmes. Que Dieu vous bénisse. On va prier.